VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, Anastasie Tudier chez Anne Albertson. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Au sommaire de ce lundi 21 décembre 2015, Anne.
Au Burundi, les 5000 hommes que veut envoyer l'Union africaine ne font pas l'unanimité chez les acteurs politiques.
République centrafricaine, bilan à tout juste une semaine des élections.
Alpha Condé, vainqueur des élections présidentielles en Guinée, est sur le point d'entamer son second mandat. Prêtera-t-il à nouveau serment ?
Au Yémen, les camps antagonistes se préparent à une nouvelle rencontre alors que le cessez-le-feu a été prolongé d'une semaine.
Et puis, décision historique, la Grèce reconnaît l'État palestinien.
Et enfin, Star Wars, toujours plus de force. Le 7e épisode de La Guerre des Étoiles engrange 238 millions de dollars lors du week-end de sa sortie en Amérique du Nord. Un record. À venir, l'économie et le sport, mais tout de suite, c'est le journal.
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé d'autoriser l'envoi d'une mission de 5000 hommes au Burundi pour enrayer les violences dans ce pays. Décision rejetée hier par le gouvernement de Pierre Nkurunziza. Et si cette force était déployée sans l'aval de Bujumbura, elle serait considérée comme une force d'invasion et d'occupation, a dit un responsable cité par l'AFP. Dans la classe politique, les avis sont partagés. Paul Nkunzimana dirige le Parti des travailleurs et de la démocratie. Il se prononce pour un dialogue inter-burundais.
Pourquoi des troupes régionales alors que nous avons des troupes à l'étranger ? Il s'agit de piétiner la souveraineté de ces pays. C'est-à-dire que les puissances étrangères ont décidé de piétiner la souveraineté du peuple somalien. Les puissances étrangères ont décidé de piétiner la souveraineté du peuple centrafricain. En RDC, vous avez en fait des troupes de l'ONU, la MINUSCO, qui compte plus de 20 000. Cette force de 5 000, qu'est-ce qu'elle va faire pour le maintien de la paix ? Alors que nous avons plus de 10 000 à l'étranger.
Paul Nkunzimana, joint Bujumbura. L'opposition réagit, elle, positivement à la décision de l'Union africaine. Odifax Ndabitoreye est un ancien candidat à la présidence.
Ce ne serait pas seulement une bonne chose, mais ce serait salutaire pour le Burundi à l'heure actuelle. Quand on regarde le déroulement des événements, au Burundi, il y a eu plusieurs morts depuis 2005, donc des personnes qui ont été jetées dans plusieurs rivières. Il y a eu des personnes qui ont été tuées en 2010 à Gatumba et plusieurs membres du parti FNL qui ont été tués après les élections de 2010, mais aussi les assassinats de trois sœurs qui ont été décapitées. Ça veut dire qu'au Burundi, les massacres ont continué à grande échelle, bien sûr, et au moment où je vous parle, les massacres ont pris un autre élan. Et cela démontre que le gouvernement burundais lui-même n'est pas en mesure de pouvoir arrêter ce qui est en train de se passer.
Odifax Ndabitoreye, joint à Amsterdam par Chérubin Dorsil.
En République centrafricaine, une semaine de l'échéance du 27 décembre, cruciale pour le pays, les candidats s'activent en vue de convaincre les électeurs. Freeman Sipila fait le point pour nous.
Ce lundi, la campagne électorale entre dans sa deuxième semaine et dernière ligne droite avant le premier tour du 27 décembre. Les candidats qui étaient jusque-là peu visibles sur la scène multiplient depuis ce week-end des meetings et des caravanes à travers la ville de Bangui. Les quartiers généraux ou comités de soutien se rivalisent en instruments musicaux, créant un véritable vacarme, surtout la nuit dans les quartiers. Parmi les 30 candidats à la présidentielle, 4 seulement ont le courage pour battre campagne dans certaines villes de l'intérieur du pays, contrôlés pour la plupart par des groupes armés. Difficile pour l'instant de faire un pronostic, car certains électeurs que nous avons interrogés ne savent pas encore qui voter pour mettre à la tête du pays. Alors que la campagne électorale est à sa deuxième semaine, 9 candidats aux législatives recalés par l'Autorité nationale des élections ont été autorisés ce dimanche par le tribunal administratif à revenir dans la course. Les différents candidats ont jusqu'au 25 décembre à minuit pour tenter de convaincre les quelques 2 millions d'électeurs centrafricains attendu aux urnes le dimanche prochain. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En Guinée, le président Alpha Condé, réélu pour un second mandat de 5 ans, doit être installé dans ses fonctions de chef d'État dans quelques heures à Conakry. Cette cérémonie fait suite à celle de la prestation de serment il y a une semaine, un serment que le président Condé pourrait reprendre. Zakaria Camara.
Nouveau départ pour le second mandat, Alpha Condé va-t-il reprendre la lecture du serment à l'occasion de son installation ce lundi ? Oui, soutiennent certains juristes guinéens qui font remarquer qu'un passage important n'aura pas été prononcé par le président président réélu. Je jure de faire respecter la loi. Voilà la phrase qui fait débat. Dans quelques heures, Alpha Condé sera de nouveau devant la Cour constitutionnelle qui a pris acte de sa prestation de serment. De cérémonie, le sujet est commenté dans la capitale.
On sait déjà, il a gagné les élections. Donc, ce n'est pas la peine maintenant d'organiser des événements par-ci, par-là. À mon avis, on doit faire directement la réorganisation de l'administration pour que les affaires puissent bouger maintenant.
Faire un seul événement pour que nous puissions mettre un gouvernement en place pour sortir la Guinée de cette crise.
Moi, je trouve que ça, c'est pas un problème. L'essentiel est que après ces deux événements, qu'ils puissent mettre un gouvernement en place qui fera sortir la Guinée de cette misère, que les jeunes puissent avoir du bon boulot pour travailler et que les investisseurs puissent venir investir.
15 chefs d'État africains avaient assisté à la cérémonie de prestation de serment. Un seul est annoncé pour l'installation d'Alpha Condé. Il s'agit du Gambien Yahya Jammeh. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, au Yémen, le cessez-le-feu a été prolongé d'une semaine alors que les parties en conflit se préparent pour une nouvelle rencontre sous l'égide de l'ONU le 14 janvier prochain. Les précisions tout de suite de Jean-Roger Bion.
Cette trêve fragile devrait expirer ce lundi dans la soirée, mais elle restera en vigueur encore 7 jours, a annoncé le chef de la délégation gouvernementale, Abdel Malak al-Meklafi. Une condition cependant, il faut qu'elle soit respectée par les rebelles chiites houthis soutenus par l'Iran, qui ont contraint à l'exil le gouvernement sunnite qu'appuie l'Arabie saoudite. Malgré le cessez-le-feu, d'intenses combats ont été signalés hier à Jaof, une province du nord-est et dans une localité proche de la frontière saoudienne, où 3 civils ont été tués samedi par la chute d'un missile tiré par les rebelles, le troisième en 24 heures. Les forces pro-gouvernementales qui ont gagné du terrain en se rapprochant samedi de la capitale yéménite Sanaa ont poursuivi leur offensive dans le nord du pays. Au terme d'une première série de pourparlers en Suisse, les protagonistes ont convenu de se retrouver le 14 janvier pour chercher une issue durable au conflit yéménite. Le médiateur onusien Ismaël Oul-Sheikh Hamed a de son côté fait état de progrès vers un cadre de négociation pour un règlement politique fondé notamment sur la résolution 2216 du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette résolution, rappelle l'AFP, demande le retrait des Houthis de la capitale et des autres villes occupées depuis l'an dernier et la restitution des armes lourdes.
En Espagne, victoire à la Pyrrhus pour les partis traditionnels aux élections législatives de dimanche. Le Parti populaire conservateur est arrivé en tête, mais il a perdu sa majorité absolue. Le Parti socialiste, bien que deuxième, a réalisé le pire score de son histoire avec 22% des suffrages, talonné par Podemos, parti issu du mouvement des indignés, qui lui a remporté 20% des voix alors qu'il n'a que 3 ans. Une nouvelle configuration qui rend le pays difficile à gouverner.
La Grèce va reconnaître l'État palestinien lors d'un vote mardi au Parlement en présence du président palestinien Mahmoud Abbas qui a entamé hier dimanche une visite de 2 jours à Athènes. Le rapprochement ces dernières années entre la Grèce et Israël n'a pas affecté les bonnes relations gréco-palestiniennes et M. Abbas doit rencontrer aujourd'hui le président de la République grecque Prokopis Pavlopoulos puis le premier ministre Alexis Tsipras.
Enfin, ici aux États-Unis, le réveil de la force, nouvel épisode de la saga Star Wars, engrange des recettes records, 238 millions de dollars pour le premier week-end dans les salles des États-Unis et du Canada. Le film de J.J. Abrams récolte 279 millions de dollars dans le reste du monde pour ses 5 premiers jours, ce qui fait un total de 517 millions de dollars. Le film est projeté depuis vendredi sur 4134 écrans aux États-Unis et au Canada. À New York, les plus grands cinémas projetaient le film toutes les heures, parfois dès 6 heures du matin. Le réveil de la force fera-t-il mieux que Avatar en 2009 et Titanic en 1997 ? Les deux films sont les seuls de l'histoire à avoir dépassé les 2 milliards de dollars au box-office.
Et tout de suite, c'est la Minute Écho avec vous, Michel Joseph.
En Côte d'Ivoire, vendredi après-midi, une nouvelle cimenterie a été inaugurée à Atengué, 27 km au nord d'Abidjan, fruit d'un partenariat entre le consortium turc Limak Group of Companies et sa filière ivoirienne Afrikibat. L'usine sera construite sur une superficie de 12 hectares pour un coût de 30 milliards de francs CFA. Les constructeurs anticipent une capacité annuelle de production d'1 million de tonnes de ciment et une centrale à à béton d'une capacité d'1 million de mètres cubes. La future cimenterie devrait générer 200 emplois directs. Vendredi toujours, le Congrès américain a approuvé une vaste réforme du Fonds monétaire international, FMI, qui renforce le poids des pays émergents. Une décision attendue depuis de nombreuses années. Après la réforme, la Chine verra son poids quasiment doublé à plus de 6% et sera le grand vainqueur d'un texte qui renforce également, dans une moindre mesure, les droits de vote de l'Inde, du Brésil ou de la Russie. Avec 16,5% des droits de vote, les États-Unis resteront toutefois le premier actionnaire de l'institution et continueront d'avoir un droit de veto sur les plus importantes décisions. La Corée du Sud a annoncé vouloir intensifier sa coopération avec les autorités sénégalaises pour 2016. Une coopération accrue qui devrait porter sur l'agriculture principalement, mais également la pêche, le transport, les infrastructures, l'éducation, la santé et la culture.
Place au sport maintenant avec Élisée Onkpatine. Bonjour.
Bonjour Anastasie.
Oui Élisée, on commence tout de suite avec la mise au point de Lamine Diack. L'ancien patron de l'athlétisme mondial nie tout versement d'argent à Macky Sall pendant sa campagne pour les présidentielles en 2012 au Sénégal.
Oui, une nouvelle déclaration faite via les avocats de l'ex-président de l'I2AF en réponse à la publication dans Le Monde. Un extrait de son PV d'audition lors de sa garde à vue en novembre à Paris. Ni Macky Sall ni ses chargés de campagne n'ont bénéficié d'1,5 million d'euros obtenu de la Russie en 2011 en échange du silence de l'Institution mondiale de l'athlétisme sur les pratiques dopantes de certains athlètes russes. Vendredi déjà, sur une radio sénégalaise, Lamine Diack, mis en examen dans cette affaire pour corruption passive et blanchiment aggravé, avait reconnu avoir financé des jeunes mobilisés contre le régime d'Abdoulaye Wade, mais pas contre un candidat en particulier.
Le football avec le mondial des clubs au Japon et le FC Barcelone qui sort vainqueur.
Les Espagnols ont facilement battu en finale les Argentins de River Plate 3-0. Un but de Messi et un doublé de Suarez. Troisième titre dans cette compétition pour le FC Barcelone. La petite finale, elle, a été remportée par les Japonais d'Hiroshima, vainqueurs des Chinois de Guangzhou, 2-1.
Toujours en football, avec la Super Coupe du Niger remportée par l'AS Douane.
Le club de Niamey, champion en titre, a battu l'AS Sonidep, surprenant vainqueur de la Coupe nationale sur le score de 3-1. Des réalisations d'Abdoulkader Yakouba, de Zachary Adebayo et du Béninois Nicolas Doyon. Moustapha Gaba a lui inscrit le seul but de Sonidep, deuxième Super Coupe d'ombre, et puis deuxième doublé championnat Super Coupe pour les douaniers après celui de 2013. Bon pour la confiance à une semaine de la reprise du championnat.
Et pendant ce temps au Mali, reprise retardée et en même temps un tournoi amical interclub qui est organisé au Burkina Faso.
Effectivement, un tournoi destiné à préparer les clubs burkinabés et maliens à leur futur rendez-vous en Coupe d'Afrique des clubs. Et à Ouagadougou, l'USFA engagé en Coupe de la Confédération et l'AS Bakaridjan, club malien, se sont séparés sur un nul de 2-2. À Bobo-Dioulasso, les fonctionnaires de l'ASFB ont eu raison des militaires maliens de l'USFAB, 2-1. Aujourd'hui, on aura à Ouagadougou le choc FO, étoile filante de Ouagadougou, stade malien.
Et puis du basketball, Élisée, le tenant du titre en Coupe d'Afrique des clubs champions masculins a perdu sa couronne en finale et ça s'est passé à Luanda.
Et oui, les joueurs de Recreativo Olibolo se sont inclinés face à leurs compatriotes de Petro Atlético 89-75. C'est leur deuxième sacre continental après 2006. Le podium final ne sera pas totalement angolais puisque Primeiro do Agosto a été battu par les Marocains des Phares pour la troisième place 72-62. Et puis, on reste en basketball avec vous, Anastasie. Les résultats des matchs joués cette nuit en NBA, le championnat américain de basket.
Orlando a été vaincu par Atlanta 100-103. Toronto a été battu également par Sacramento 94-104. Quant à Denver, face à la Nouvelle-Orléans, n'a pas eu plus de chance. 125 pour Denver, 130 pour la Nouvelle-Orléans. Cleveland a disposé de Philadelphie en 108 points contre 86 pour Philly. Phoenix Milwaukee, eh bien c'est Milwaukee qui l'a remporté à 101 points contre 95. Et Brooklyn Minnesota Minnesota, c'est Brooklyn qui a été battu par Minnesota à 85 à 100. Et puis Miami-Portland, 116 pour Miami, 109 pour Portland. Merci Élisée Ungpatine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiache avec vous tout de suite, les dossiers du jour. Les dirigeants d'Afrique de l'Ouest se sont entendus lors du dernier sommet de la CEDEAO tenu à Abuja au Niger pour interdire le voile islamique intégral dans leur pays respectif, une mesure de lutte antiterroriste, notamment plus particulièrement à l'encontre des femmes kamikazes qui se multiplient. Comment les femmes elles-mêmes réagissent-elles à cette annonce? Eh bien, Abdul Razak Idrissa les a rencontrées et a recueilli leurs réactions.
Madame Al-Kassoum Nana est une sœur musulmane basée à Maradi. Avec son voile sur le visage, elle estime légitime la décision de la CEDEAO.
Par rapport à ce qui se passe dans ce monde, je comprends parfaitement. Et aujourd'hui, si je peux lui dire devant vos micros, c'est dommage que des gens ont confondu des choses pour que d'autres gens puissent aller jusqu'à prendre des décisions comme ça. Vous êtes venu dans mon foyer, vous avez vu, il n'y a rien qui règne que de l'amour. Surtout l'amour du prochain. Je comprends la CEDEAO. Maintenant, le voile, c'est les bombes, c'est la violence, c'est la mort. C'est ça le voile, en fait, maintenant. Et c'est normal ce qu'ils ont demandé. C'est vraiment normal. Mais il ne faut pas que les gens mettent tout le monde dans le même panier. Ça n'a rien à voir. En tout cas, nous, à Maradi, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on peut voir de l'extrémisme. Ça n'existe pas chez nous.
Hajia Sakina Maman est, elle, fondatrice d'une école coranique communément appelée Makaranta, ici à Niamey. Elle apprend les versets du Coran uniquement aux femmes. Sur la décision de la CEDEAO, elle est catégorique. Pour cela, elle se réfère au Coran.
Ya ayyuhan nabiyu. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن ولا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أو prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala dit à tes femmes, tes filles et les femmes des croyants de se protéger, de porter des voiles afin qu'on les reconnaisse et qu'on ne les fasse nul grief. Et ça, c'est notre identité. Le voile, c'est notre identité. Je ne pense pas qu'un quelconque gouvernement se hasarderait à dire qu'il va interdire le voile. On a le droit de pratiquer notre religion et pas un gouvernement, pas quelqu'un même qui est au-dessus du gouvernement ne peut pas nous interdire de porter le voile. Oui, pour la sécurité, mais quelle sécurité? Si moi, on me demanderait mon avis, je dirais que ce n'est même pas une façon de sécuriser un pays. Pourquoi ne pas invoquer Allah pour avoir cette sécurité-là? Parce qu'il est le seul qui peut sécuriser.
Pour le moment, au Niger, c'est seulement dans la région de Diffa, en proie aux attaques de la secte islamiste Boko Haram depuis le mois de février 2015, que le port du voile a été interdit par les autorités régionales. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Au Mali, 6 mois après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, rien ne bouge. Groupes armés et gouvernement malien ne sont pas parvenus à mettre en place le comité de suivi de l'accord. Le point sur la situation à Bamako avec Kassim Traoré.
Signé le 15 mai puis parachevé le 20 juin 2015 à Bamako, l'accord pour la paix et la réconciliation n'est pas encore appliqué sur le terrain. Faute de consensus dans la mise en place de son comité de suivi, la COMPIS 15 souhaite une inclusivité dans l'application de l'accord. Ousmane Ag Mohamedoun, membre de la COMPIS 15.
L'article 58 de l'accord, l'article 67 de l'accord sont inviolables. Et au nom de ces articles, nous exigeons notre place qui est de droit dans le comité de suivi, dans les sous-comités et de façon confortable. Parce que c'est là que se discute la sécurité et la défense de notre pays. C'est là que se discutent les réformes qui vont voir le jour dans notre pays. On ne peut pas être en marge. Nous avons suffisamment de ressources pour combattre cela.
Sur le terrain, la situation se détériore de jour en jour avec des attaques et des attentats dont les premières victimes sont les forces armées du Mali et les soldats de la MINUSMA. La dernière en date s'est passée dans la nuit du 17 au 18 à Tombouctou. Le bilan est de 3 morts, dont un animateur de radio aidé de ses amis qui étaient assis devant la radio Tanit FM. Les organisations professionnelles de la presse ont condamné cet assassinat dans une déclaration lue par Daouda Mariko, vice-président de la Maison de la Presse du Mali.
La Maison de la Presse condamne avec les mots les plus forts et très vigoureusement cet assassinat. Elle souhaite que son auteur soit arrêté, poursuivi et puni. Cette nouvelle situation augmente les risques pour la sécurité des journalistes à leur poste de travail.
La situation ni paix ni guerre est constatée par l'administration avec impuissance. Radia Achouri, porte-parole de la mission onusienne au Mali.
L'environnement sécuritaire ne s'améliore pas. Dans certaines zones, ça ne fait que s'aggraver. Il faut absolument que l'on puisse avancer sur la mise en œuvre de l'accord de paix. La dernière attaque sur le Radisson a alerté tout le monde sur la nécessité d'être plus vigilant.
Les acteurs du processus d'Alger étaient en conclave à Bamako les 16 et 17 décembre dernier. Faute de consensus, ils n'ont pas pu mettre en place le comité de suivi de l'accord. Le blocage se situe au niveau de la plateforme, selon Ousmane Agmamedou de la Compis 15.
Aux dernières nouvelles, nous avons compris que la CEMA n'est même plus opposée à une ouverture du caractère inclusif. Et maintenant, Maître Harouna Touré, au nom de son statut de porte-parole, aujourd'hui, se situe en défenseur de l'exclusion, en s'opposant, en rejetant des niettes catégoriques tout ce que le gouvernement propose pour l'unité de ce pays, considérant pour lui que le gouvernement, c'est une partie comme lui, alors que le gouvernement représente tous les pays. Il faut s'allier la médiation algérienne, parce que le président du CSA, notamment le chef de file algérien, a fait une proposition qui allait trouver notre accord. Si Maître Harouna Touré ne s'est pas érigé en avocat de l'exclusion.
Pour le moment, les responsables de la CMA et la plateforme qui marchent main dans la main n'ont pas voulu faire de commentaires. La médiation internationale de son côté reste optimiste, car elle pense qu'après les fêtes de fin d'année, les différentes parties vont revenir à des meilleurs sentiments. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et toujours à propos du Mali, c'est dans ce contexte que l'ancien chef de la diplomatie tchadienne, Mahamat Saleh Hanadif, est nommé représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSMA. Il prendra ses fonctions le 14 janvier 2016, mais déjà, il mesure la tâche qui l'attend sur le terrain. Précision dans le reportage d'André Kodmajingar.
Dès l'annonce de sa nomination comme nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSMA, l'ancien chef de la diplomatie tchadienne Mahamat Saleh Hanadif se dit être partagé entre deux choses, la joie et la responsabilité qu'il attend sur le terrain. Il affirme à la VOA Afrique qu'il a une mission précise, celle de ramener la paix au Mali.
Mon implication la plus grande, c'est de réconcilier d'abord les Maliens avec le MINUSMA, qu'ils aient confiance à la MINUSMA. Et ensemble, on doit tous se tourner en aidant l'armée malienne pour qu'elle puisse faire cette guerre asymétrique que nous allons mener ensemble contre les groupes terroristes. Donc moi, je pars avec une mission des Nations Unies pour aider les frères maliens à retrouver la paix, à se réconcilier, à lancer ce processus de développement et de l'intégrité territoriale de leur pays. Ma ligne directrice, c'est le dialogue, discuter, négocier autant que possible, être compris par le Malien avant de pouvoir m'engager dans d'autres actions. Parce que je ne peux pas dire que j'aime le Mali plus que les Maliens eux-mêmes. C'est trop ambitieux.
Pour relever ce défi, Mahamat Saleh Hanadif a déclaré qu'il va se battre pour l'application intégrale de l'accord politique sien le 20 juin 2015 à Alger, dont il détient déjà la feuille de route pour le bonheur du peuple malien.
On ne peut pas faire la paix au Mali sans les Maliens. Cet accord a été signé par le Malien. Donc je vais vraiment m'investir pour que son application puisse voir le jour. Maintenant, parallèlement à ces acteurs qui ont signé l'accord d'Alger, il y a ce qu'on appelle les groupes armés terroristes, qui, eux, n'entrent pas dans ce chemin-là. C'est les gens qui ont opté pour une guerre asymétrique, dont souvent on ne connaît même pas l'objectif. C'est des gens qui sont tout simplement imbus par la notion de tuer, la notion de terroriser, la notion de détruire, mais la MINUSMA fera tout pour combattre ces groupes armés et terroristes afin que des actes comme celui de l'hôtel Radisson Blu ne puissent pas se produire.
Mahamat Saleh Hanadif sollicite la collaboration de tous les acteurs pour combattre ces narco-terroristes qui font feu de tout bois au Mali. André Kodmajingar Ndiamena, La Voix de l'Amérique.
En République démocratique du Congo, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie au pouvoir a lancé une campagne de 15 jours pour mobiliser ses membres contre l'opposition dont une bonne partie rejette le dialogue national et menace de mettre à exécution l'article 64 de la Constitution congolaise autorisant les Congolais à barrer la route à toute violation des textes fondamentaux en cours. Eddy Sango a joint le secrétaire général du parti du président Kabila, Henri Movasakani.
Nous chargeons, nous, préparer le peuple congolais afin qu'il ne se laisse pas entraîner dans des mécanismes qui iraient à l'encontre de son honneur. Nous pensons que la solution est dans le dialogue. Et les Congolais dans la classe politique doivent le faire.
Mais ceux qui mettent en avant l'article 64 de la Constitution actuelle en RDC ont peur que les dialogues ne soient une occasion justement de permettre au président Joseph Kabila de se présenter à un autre mandat alors que la Constitution actuelle ne les lui permet pas.
Non, c'est tout à fait faux de réfléchir de cette manière-là parce que les dialogues viennent pour violer la Constitution ou changer quoi que ce soit dans la Constitution. De toute façon, ce n'est pas un dialogue politique qui décide d'écrire une constitution. Le changement constitutionnel passe par le législateur qui est notre assemblée. À ma connaissance, ce n'est pas l'assemblée qui va se réunir autour du dialogue. Les discussions politiques ont pour tâche d'aborder la question du calendrier électoral qui est global, mais qui est en dépassement, le temps restant est en cours. Les discussions sur le budget, on nous demande 1,2 milliard de dollars américains pour faire les élections. Le budget national ne peut pas le faire. Nous discuterons de comment faire.
On a assisté à un schéma similaire, justement, au Congo-Brazzaville. Une majorité s'est dégagée et la constitution qui était similaire à celle de la RDC a été modifiée pour permettre au président de se présenter pour un autre mandat.
La volonté du peuple congolais de Brazzaville a été celle-là, mais nous avons un tout autre processus où il est question des problèmes objectifs réels qui se posent chez nous et nous voulons y apporter des solutions totalement congolaises de Kinshasa cette fois-ci.
En moins d'un an des élections, est-ce que les partis au pouvoir se préparent à présenter un autre candidat?
En tout cas, vous avez vu comment l'opposition a réussi vraiment à distraire toute l'opinion sur toutes ces questions et à envenimer pratiquement la dernière année du mandat du président Kabila, qui est le président d'exercice et qui a donc un bilan présenté. Et tout de suite, on commence des débats sur la fin de mandat. C'est quand même malheureux qu'on en soit arrivé à ça. Ce n'est donc pas notre préoccupation. Nous ne sommes pas tombés en ce piège-là de vouloir discuter des questions qui ne se posent pas encore.
Henri Movasakani, secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, il répondait aux questions d'Eddy Isango.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
De l'autre côté du fleuve, au Congo-Brazzaville, les consommateurs se plaignent de la qualité des légumes, souvent cultivés avec trop d'engrais chimiques. Reportage à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Dans les marchés et dans les ménages, plusieurs femmes se plaignent de la qualité mauvaise des légumes.
Ce n'est plus du tout le même que nous avons eu à manger autrefois. Le goût a vraiment changé. Et même dans la cuisson, vous sentez que ça met du temps pour cuire. Donc ce que nous consommons actuellement, il y a trop de produits chimiques. Parce que autrefois, on achetait les légumes au sans-fil, là où les gens construisent actuellement, et vers Kiebana Virage, au moins là-bas où la population était ravitaillée en légumes. Et c'était du bio, c'était pas ce que nous voyons actuellement et ce que nous mangeons actuellement.
Contactés, les maraîchers reconnaissent l'utilisation abusive des engrais chimiques dans légumes. Mangoudi est maraîchère au centre agri-congo de Kombé à Brazzaville.
Moi, je le sais, c'est à base du compost que je travaille. Tous les légumes sont avec trop d'engrais à la bille. Ça ne donne pas un goût agréable à la bouche. Mais avec le compost, c'est à base de feuilles. Avec la drèche, tu peux faire un bon compost. Sans engrais, tu peux travailler. Et quand nos grands-parents travaillaient à Talangay, mon grand-père fut le premier maraîcher qui était parti en Chine. Il n'y avait pas d'engrais chimiques.
Pascal pense que malgré le gain intéressant rapporté par des légumes qui poussent vite, il faut revenir aux cultures bio.
Parce que actuellement, le monde évolue. Est-ce que nous pouvons repartir comme à l'époque de nos parents avec des moyens rudimentaires? combien va-t-on produire? Parce que nous allons tout de suite passer au bio, c'est-à-dire que c'est depuis la nature.
Vous verrez que quelqu'un qui a utilisé l'engrais, 4 jours après, le produit est parti au mal. Mais nous, nous donnons la mort aux consommateurs.
Fabricant et distributeur des produits chimiques d'agriculture, cet expert basé à Pointe-Noire, la capitale économique, donne quelques conseils.
Beaucoup de gens ne font pas attention déjà au dosage. Certains ne savent pas lire, donc ils mettent un peu trop de produits ou parfois un peu moins. Donc on leur a donné quelques indications là-dessus, comment doser leurs produits. Il y a aussi le fait que beaucoup de gens ne savent pas les délais avant récolte, parce que sur tous nos emballages, c'est marqué DAR, c'est la période à observer entre la dernière application et la récolte. Donc beaucoup ignorent ça et donc nous font encourir des risques réels à nous qui sommes les consommateurs.
En cette période où les légumes se font rares dans les villes congolaises faute d'espace de culture, manger bio demeure encore un simple slogan. Nguela Ngoussou, Brazzaville, la voix de l'Amérique.
Voilà, c'était Le Monde aujourd'hui. Merci pour votre attention. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. À la console, c'était John Ellison. Et avec vous pour la présentation, Anastasie Tudiech. Bon lundi à toutes et à tous. Restez à l'écoute des programmes de VOA Afrique.